Au Café Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Au Café Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Comment bien préparer la rentrée scolaire lorsqu'on a beaucoup d'enfants? C'est souvent un casse-tête pour de nombreux parents qui sont préoccupés par les préparatifs de la rentrée scolaire. Et ces problèmes se posent surtout lorsqu'on a beaucoup d'enfants. Et pourtant, d'après les experts, il y a moyen de bien préparer cette rentrée, mais de manière progressive. Déjà, dès que les enfants commencent les vacances, il faut jamais attendre la dernière minute. Hein. Malheureusement, beaucoup de parents, faute de moyens, se disent qu'on n'a pas de moyens pour préparer, pour se mettre déjà à préparer cette rentrée. Bon, avec notre invité, on va voir comment s'y prendre. Il s'agit de Paul Moula, je l'ai dit en titre, il est éducateur à la vie. Nous rappelons le numéro de contact, c'est les 0 80 1 890 63 94. Vous avez également la possibilité de nous envoyer un SMS au 0 81 711 50 01. Voilà, Paul Moula, les préparatifs de la rentrée scolaire, c'est chaque année, c'est souvent un casse-tête. Hein. Il y a beaucoup de parents qui attendent la dernière minute et pourtant il y a moyen de commencer déjà à s'y mettre, mais également tous les parents brandissent cet argument: on n'a pas de moyens, comment faire?
Merci Marcel. Tu sais, chaque année, il y a toujours de nouveaux parents qui entrent en jeu.
Oui.
Ceux qui n'étaient pas mariés hier ou qui n'avaient pas d'enfants à l'école vont en avoir aussi cette année. Il y en a qui sont déjà routiniers dans l'éducation et qui ont déjà des enfants qui ont commencé à étudier depuis un peu plus longtemps. Mais tous sont butés à ce problème de préparation. Et comme on s'est dit, préparer, c'est prévoir. C'est prendre à temps pour ne pas être surpris. Mais comme on ne sait pas tout préparer,
oui.
Je l'ai senti avec certains parents que j'ai contactés,
oui.
Qui disent, moi, je veux bien commencer à payer progressivement les frais scolaires, mais il y a des vacances, des administratifs, les écoles sont fermées, comment je vais faire? Et si je garde cet argent, on ne sait pas économiser chez moi, on va l'utiliser pour d'autres fins. Alors c'est un problème évidemment. Mais par quoi il faut commencer? Il faut se dire que les stress viennent non seulement de la préparation matérielle et financière, mais aussi de la préparation psychologique. Parfois on ne fait pas très attention. Il y a des enfants qui vont commencer les études cette année, ils ont besoin, surtout ceux qui commencent la première année ou la première année maternelle ou la première année primaire, ou même ceux qui changent d'école, qui ont terminé les cycles d'orientation,
oui.
Les cycles primaires qui doivent entrer au cycle d'orientation, en fait des secondaires générales chez nous. Ils ont besoin de connaître les réalités du nouveau monde. Et la famille aussi sera bousculée par cette entrée de l'enfant dans le nouveau monde. Là aussi, ce choc-là, il faut savoir l'amortir. Et le secret, c'est de parler de l'école, de visiter l'école et de voir dans quelle ambiance les enseignements vont se réaliser, les personnes que l'enfant va rencontrer et éventuellement les milieux, s'il est séant ou non.
C'est d'abord une préparation psychologique.
Oui. Et ça, c'est important. Et même pour les parents, cette préparation est nécessaire. Tous les enfants n'ont pas réussi. Il y en a qui, éventuellement, ont échoué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir à deux, quand on est marié, discuter un peu des résultats, mais apaiser également les inquiétudes qu'on a pour tel ou tel enfant qui semble ne pas être très adapté pour les études.
Et justement, Paul, vous évoquez les problèmes d'enfants, c'est justement ça même l'objet de ce magazine aujourd'hui, de ces sujets pour lorsqu'on a beaucoup d'enfants. Prenons le minimum possible, on a 5 enfants. Alors, il faut préparer la rentrée des enfants qui vont rentrer à l'école primaire, des enfants qui vont aller à l'école secondaire. 5 enfants, je prends le minimum. Hein,
parce que... Je me moquerai de vous quand vous parlez de beaucoup d'enfants à 5, parce que à l'Obéro, il y a un monsieur qui a 37 enfants.
Combien?
37.
37 enfants. Wow.
37 enfants.
Là, c'est...
Alors, comprenez?
Là, c'est terrible.
C'est l'autre extrême. Hein.
Oui.
Mais... La notion de beaucoup d'enfants est relative.
Oui.
On doit se le dire. Mais chacun se dit, je veux avoir le nombre d'enfants que je peux élever. C'est ça la notion de la planification, et c'est pourquoi aujourd'hui on est en train d'encourager les parents à appliquer les méthodes de planning familial pour qu'ils aient des enfants en nombre qu'ils veulent, au moment qu'ils veulent, pourvu qu'on puisse préserver la santé de la famille, de la mère et de l'enfant en particulier, et également voir dans quelle mesure on peut arriver à bien élever ses enfants. Il y a des gens qui ont commencé la vie avec un peu plus de moyens, qui croyaient qu'ils pouvaient encore tenir longtemps avec ces moyens-là.
Oui.
C'est une chose. D'autres encore ont commencé pauvres, puis à un moment donné, ils se sont limités à 2 ou 3 enfants, mais ils ont eu beaucoup de moyens, et ils souffrent aujourd'hui pour avoir un 4e enfant qu'ils recherchent, parce qu'ils ont assez de moyens pour les élever. Donc, dans cette question-là, il ne fera jamais jour à la même heure partout au monde.
Alors, dans ces cas, est-ce qu'il y a des enfants qu'il faut, dans un premier temps, à qui il faut accorder la priorité? Parce que vous avez beaucoup d'enfants, il y en a, comme je l'ai dit, ceux qui vont rentrer à l'école primaire également, ceux qui vont rentrer sur... Est-ce qu'on doit se dire que je commence d'abord rapidement
Ne me tentez pas, Marcel. Le droit de l'enfant dit que tous les enfants sont égaux.
Oui.
Donc, il n'y a pas un seul qui doit être négligé ou un qui doit être privilégié. Tous les enfants doivent être privilégiés. C'est pourquoi, quand nous allons aborder la question de la préparation financière et matérielle, nous allons voir comment on peut progressivement préparer la rentrée scolaire pour tous les enfants, mais alors en achetant peu à peu tout ce dont ils auront besoin. Mais dans cette question de la préparation psychologique, j'insiste, parce que c'est ça qui se fait le moins.
Alors que c'est important.
C'est indispensable pour la réussite de l'année scolaire. Il faudra d'abord que le parent soit dans les dispositions d'accepter leurs conditions, d'examiner les opportunités qui s'offrent à eux pour agir au moment opportun et effectivement accompagner l'enfant à réussir l'année scolaire. Il y a des enfants qui étaient faibles dans certaines branches. Qu'est-ce que les familles sont en train de faire aujourd'hui? Et ceux qui ont échoué, comment on les motive pour qu'ils réussissent l'année prochaine? Est-ce qu'on n'est pas en train d'enfoncer le clou sur celui qui a échoué comme si c'était la fin du monde? Mais si vous les persuadez qu'il est un bon à rien, rassurez-vous que même l'année prochaine, vous aurez des très mauvais résultats. Donc cette question de préparation psychologique est essentielle. Chaque enfant doit, qu'il ait réussi ou qu'il ait échoué, doit rentrer régaillardi, encouragé par la famille pour qu'il puisse affronter l'année scolaire.
Alors, qu'est-ce que l'année de la préparation matérielle?
La préparation matérielle, c'est la plus simple. Bien que les gens me diront, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est la plus simple. Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit, si on avait commencé à temps, on peut effectivement arriver à outiller l'enfant avec les minima dont on a besoin pour réussir une année scolaire. Commencer dès la fin dès qu'on a les résultats, on sait, si on est en contact avec l'école, on sait ce dont l'enfant aura besoin l'année prochaine.
Avec le billet de vacances.
Bien sûr qu'il y a des choses qui coûtent moins cher, je l'ai dit toujours. Un crayon, une gomme, c'est ce que les enfants manquent le plus. Pourtant, c'est ce qui coûte le moins cher. Pourquoi ne pas commencer par un crayon, par une gomme, puis après les stylos, et après on a les cahiers, comme on les appelle ici. Pour avoir des cahiers, il ne faut pas non plus aller en ville ramasser tous les paquets. Je suis content qu'on ait décentralisé un peu les magasins dans la ville de Kinshasa, et même dans le pays, on va retrouver par-ci par-là des lieux de vente des objets classiques. Mais faites un tour, vous verrez qu'avec 1000 francs, avec 2000 francs, 2500 francs, vous pouvez avoir déjà des cahiers qu'on aura besoin. Et pour avoir 1000 francs, 2000 francs, c'est vrai, on me dira, il faut un salaire. Oui, il ne faut pas se leurrer. On n'est pas tous dans la même situation. Et on dit toujours que ce sont les distraits qui ne font pas scolariser leurs enfants aujourd'hui. Ceux qui croient que ce sera avec le salaire seulement qu'on arrivera à faire étudier ses enfants. Logiquement, je n'en disconviens pas, c'est le salaire normalement qui devait faciliter la chose. Mais dans un système comme le nôtre, il faudra comprendre quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour que l'enseignement fonctionne aujourd'hui. Les enseignants sont payés par les parents, ça on sait, en grande partie, avec la contribution de l'État, on le sent aussi, mais tout le monde qui reçoit son salaire, ce petit salaire, arrive-t-il à outiller les enfants? Il n'en est pas question. C'est pourquoi il faudra que l'on puisse voir quels sont les moyens dont on dispose. Parce que quand on donne naissance aux enfants, on se dit, je sais comment je m'y prendrai. Comme on arrive aujourd'hui à nourrir ces enfants-là, on peut aussi arriver à nourrir leur esprit. Parce que l'enseignement, les études, c'est aussi une nourriture pour les enfants. Et alors, on se casse en mille morceaux pour avoir un pain, on se casse en mille morceaux pour leur offrir un pot de riz. Mais il faudra aussi qu'on se casse,
comme on le dit, petit à petit, un crayon, un stylo, et puis voir
dans quelle mesure vous pouvez avancer progressivement les frais pour que les enfants rentrent avec un moral haut.
Voilà, comment bien préparer la rentrée scolaire lorsqu'on a beaucoup d'enfants? On en parle avec Paul Moula, il est éducateur à la vie. Nous avons déjà un auditeur en ligne. On espère que beaucoup d'autres vont également intervenir pour poser des questions par rapport à ce sujet. Nous rappelons le numéro des contacts, c'est les 081-890-63-94.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Comment bien préparer la rentrée scolaire lorsqu'on a beaucoup d'enfants? C'est les sujets en cours dans ce magazine Okapi Service. Nous avons déjà 3 auditeurs en ligne. Victor Ingopa nous appelle du Kananga, dans le Kasso Occidental, Ogi Bendelo et Takikui dans le Bandundu également. Dans la province de Bandundu, dans la même ville, la ville de Kikwit, nous avons également Kovo Mokusila également. Un autre auditeur, c'est César Mourola qui appelle de Bukavu dans le sud Kivu. On attaque donc avec le tout premier Victor Ingopa depuis Kananga dans les Kasses occidentales. Bonjour Victor.
Bonjour Marcel, bonjour aussi à tous les auditeurs des Radio Capi. Merci de m'avoir octroyé la parole encore pour participer dans ces grands sujets pour la préparation de la rentrée scolaire. Vous savez Marcel, si un parent qui a beaucoup d'enfants, déjà par exemple vous avez 7 enfants, que vous n'avez pas quand même les moyens suffisants pour préparer du coup leur rentrée scolaire, le mieux à faire c'est de préparer cette rentrée 2 mois avant. Parce que vous savez, lorsqu'on donne les vacances aux enfants, c'est-à-dire, c'est synonyme de dire aux parents, non, préparez-vous en conséquence, dans 2 mois après, les enfants vont encore reprendre les études. Mais vous allez voir que la plupart des parents, ça, pour eux, c'est comme si c'est une période de distraction, une période uniquement pour les enfants et que les enfants jouent et puissent faire d'autres choses. Mais les parents ne prennent pas conscience de préparer la rentrée. Maintenant, si vous verrez, au mois peut-être d'août, vers le 28, le 29, les parents vont maintenant prendre la conscience de bien préparer cette rentrée. Mais imaginez-vous, par exemple, un parent qui est fonctionnaire de l'État. Il touche, par exemple, 50 000 francs à la fin de chaque mois. Comment il peut se préparer pour préparer la rentrée scolaire de 7 enfants directement? Vous savez, Marcel, cette histoire-là arrive à beaucoup de familles. Raison pour laquelle je vais attendre un parent qui te dit non, j'ai beaucoup d'enfants, il faut d'abord que 3 aillent et les 4 restent, et surtout on va privilégier surtout les garçons. Ouais, c'est ça un peu la conséquence.
Alors vous avez une question à poser à l'invité, Victor?
Oui, bien sûr, je vais chuter par une petite question.
Oui.
On ne peut pas seulement condamner les parents, mais disons que les parents s'étaient déjà préparés pour dire dans 2 mois, je vais bien préparer la rentrée scolaire de mes enfants. Il arrive peut-être au mois d'août, vers les 15 et les 16, ils trouvent un problème qui demande suffisamment d'argent, nécessairement l'argent. Et les parents se voient contraints, ils vont dépenser le peu qu'ils gardaient dans sa caisse pour la rentrée scolaire de ses enfants. Ils dépensent cet argent-là. Alors, on arrive à la rentrée scolaire. Quelle peut être réellement l'attitude que peuvent prendre ses parents, hein? Et alors, je demande à l'invité s'il peut nous donner un petit conseil sur ça. Merci beaucoup.
Merci à Victor Ingopa. Vous avez appelé du Kananga dans le Kassai occidental et dans la ville de Kikwi, dans le Bandundu. On retrouve Guy Bendelo. Bonjour Guy Bendelo.
Bonjour Marcel Ngombombala. Je salue aussi notre invité. Monsieur Marcel, je connais une famille dans le même ordre avec notre ami qui vient d'intervenir là. Le papa a beaucoup d'enfants, mais la famille en question, il y a 3 enfants qui sont internés et d'autres là ne sont pas internés. Alors les internés ont beaucoup d'exigences parce que en début d'émission, notre invité disait que tous les enfants sont égaux, bien sûr que ça, mais comme les internés ont beaucoup d'exigences, le papa a prévu que ceux qui ne sont pas internés puissent étudier cette année avec les uniformes de l'année passée. Bon, on va maintenant s'occuper beaucoup plus avec ceux qui sont internés. Mais les enfants ne comprennent toujours pas. Papa se plaint, arrive même au point de dire que si l'UNICEF prenait même la responsabilité de distribuer les manuels scolaires aux élèves de secondaire, je pouvais être un peu privilégié ou allégé de cette tâche-là. C'est pourquoi j'ai voulu poser la question, qu'est-ce que ces parents-là, qu'est-ce que ces parents-là doivent faire exactement, M. Marcel? C'était là mon unique question, Marcel Ngombombala.
Merci, Ogi Bendelo, dont vous avez appelé de Kikwi dans le Bandundu. On reste dans la même ville et dans la même province. On fait signe que vos Mokoussila n'est plus en ligne. César Morola, j'espère que ça va marcher pour lui. Lui, il est à Bukavu, dans le sud Kivu. César Morola, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour aussi à notre invité. Bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Kapi.
Allez-y,
César. Oui, monsieur le journaliste, j'avais aussi une question concernant ce très bon sujet qu'on est en train de débattre ensemble. Parce que si je me souviens très bien, c'était avec ce même invité, Paul Mboula, qu'on était en train de débattre dans l'État. Concernant les conséquences sur les exigences qu'on remarque aujourd'hui dans certaines écoles conventionnées, officielles, et sur les achats des uniformes et même d'autres matériels scolaires. Mais, monsieur le journaliste, j'avais à ce sujet une question à poser à notre invité. Oui. Parce que vous allez remarquer, monsieur le journaliste, que il y a, par exemple, dans des écoles catholiques où ils exigent aux parents d'acheter les uniformes dans leurs écoles et que chaque année, ils doivent changer le prix. Cette année, vous allez trouver, ils ont vendu ça à 20 dollars, l'année prochaine à 25 dollars, ainsi de suite. Alors, je voudrais un peu savoir quel comportement doivent avoir les parents sur ces sujets. Bien sûr qu'aujourd'hui, on commence déjà à remarquer quelques écoles qui commencent à rectifier ces achats des uniformes et autres matériels dans leurs écoles seulement. Mais qu'à cela, Étienne, monsieur le journaliste, je voudrais savoir si on avait pris cette décision d'interdire à toutes les écoles sur l'étendue de la République de ne plus vendre les uniformes aux élèves et de ne plus aussi hausser les prix sur d'autres matériels scolaires. C'est ça, c'était ça ma préoccupation et c'était ça ma question que je voudrais poser à notre invité de ce jour.
Voilà.
Je vous remercie.
Ah, merci à vous aussi, hein, César Morola. Vous avez appelé de Bukavu dans le sud Kivu. On va aller à Kananga dans le Kassai occidental. Et là, on va retrouver Alain. Bonjour Alain.
Oui, je devrais poser 2 petites questions à l'invité du jour. La première est celle-ci. Comment est-ce que les préparatifs de la rentrée scolaire peuvent aboutir à son objectif tant que le salaire est minimum? Et la deuxième question se présente de la manière suivante. Quel conseil pouvez-vous donner aux parents qui ont trop d'enfants et qui ne parviennent pas à les prendre en charge? Ce sont les 2 petites questions que je pose à l'invité du jour.
Merci Alain, depuis Kananga, dans le Kassai occidental, à Kinshasa. On a en ligne Serge Makaka. Bonjour Serge.
Oui, bonjour messieurs les journalistes. Je salue notre invité. Bonjour. Vraiment un sujet qui nous a préoccupés tous. aujourd'hui, les parents, parmi les périodes les plus difficiles qu'ils traversent, c'est cette période ici. Alors, j'ai une petite observation. Aujourd'hui, ce sont au moins les opérateurs économiques qui se retrouvent facilement à la préparation de la rentrée scolaire des enfants par rapport aux fonctionnaires de l'État. Pourquoi je le dis? Prenons un exemple d'un enseignant qui a 92 000 au minimum. Alors, cet enseignant-là, s'il a 5 enfants à scolariser et puis à faire les programmes, pour moi, cet enseignant-là se parviendra pour faire les programmes comme il se doit de tous ses 5 enfants. Merci beaucoup, je vous remercie.
Merci à Serge Makaka. Vous avez appelé de Kinshasa. On va rester à Kinshasa, la capitale de la RDCI, pour accorder la parole au docteur Richard Mukalinga. Bonjour, docteur Richard.
Bonjour, mon ami. Bonjour à l'invité aussi.
Vous êtes le docteur Richard.
Merci. Je suis étonné et écœuré qu'on amplifie la misère congolaise telle que nous la vivons. C'est-à-dire, pour retourner les enfants à l'école, il faut serrer la ceinture. Ailleurs, là où j'ai servi l'humanité par les Nations Unies, donc à l'OMS, on prépare la rentrée scolaire avec les banques. On prend le crédit à la banque à la fermeture de l'année passée. Et on paye de façon échelonnée jusqu'à la rentrée. Même le cultivateur de patates douces, de pommes de terre, j'ai vu dans ce pays, les gens faisaient comme ça. Pourquoi nous, on nous enseigne la misère congolaise de cette façon? Deuxième question. On n'a pas fait une émission sur la rente, le congé est là. Voici comment encadrer les enfants pendant les vacances, section par section. Pourquoi on passe directement à la rentrée?
Docteur Richard,
qu'est-ce qu'on a fait des vacances?
On en a parlé, docteur Richard, dans Capi Service. On en a parlé.
Même avec
peut-être
moi.
Que vous ne savez pas.
Merci beaucoup.
D'accord, voilà. Merci.
Merci.
Voilà, merci à docteur Richard Mukalinga qui a appelé de Kinshasa. Après ça, c'est vrai, on a parlé de comment encadrer les enfants pendant les vacances.
Oui,
je me rappelle que c'était avec vous. Alors, Paul Mboula,
oui.
Voilà, pleine intervention, vous allez réagir tour à tour. Il y a d'abord Victor Ingopa qui a demandé qu'est-ce que vous diriez à un parent qui essaye un peu quand même de garder de l'argent de côté pour la rentrée des enfants, mais voilà qu'un problème urgent se pose, il doit dépenser cet argent, qu'il doit-il faire?
Voilà, on se le disait, que pour ne pas être surpris par des événements malheureux ou heureux qui peuvent arriver pendant qu'on est en train de préparer l'année, il y a moyen de régler déjà certaines dettes qu'on a vis-à-vis des écoles ou vis-à-vis de dépenses qu'on doit réaliser quotidiennement pour préparer la rentrée. Et c'est évident. Même les amis qui ont signalé le salaire par-ci par-là de 50 000 ou 92 000, on s'est dit effectivement si on devait faire la comptabilité réelle des ménages congolais, on va réaliser que celui qui a dit, notre ami Victor qui est au Kassai-Oriental, qui a dit que l'enseignant a 50 000, il ne vit pas de ses 50 000. Bon, on ne va pas les traiter de voleurs, celui-là, mais on doit reconnaître les efforts qu'il met pour nourrir ses enfants, malgré que son salaire reconnu est de 50 000. C'est dans ce qu'il fait pour nourrir les enfants, pour les habiller, que nous sommes en train de voir la possibilité aujourd'hui de préparer la rentrée. Sinon, il va se retrouver avec des enfants à la maison, pendant que ses collègues qui ont le même salaire vont envoyer leurs enfants à l'école.
Vous avez suivi Guy Bendel, lui, il a parlé de ses parents qui a priorisé, enfin qui a de la priorité aux enfants qui vont aller à l'internat plutôt que à ceux qui au détriment de ceux qui vont pas à l'internat.
Je connais la ville de Bandundu et comme on dira ici, c'est un choix d'envoyer les enfants à l'internat ou non.
Et par rapport à la rentrée.
Parce que par rapport à la rentrée.
Pour parler
non,
de la rentrée.
Non seulement par rapport à la rentrée.
Oui.
Par rapport à la qualité de l'enseignement qu'on vise. Parce qu'on envoie les enfants à l'internat peut-être pour rechercher la qualité. Et la qualité a un prix. C'est pas tous les parents de la ville de Bandundu qui envoient leurs enfants à l'internat. Lui-même d'ailleurs qui en a 5 envoie 3 à l'internat et 2 restent dans la ville. Il y a une valeur essentielle que nous devons tous apprendre, et particulièrement que nous devons apprendre à nos enfants, c'est de s'accepter. L'acceptation de sa condition. Beaucoup de femmes, c'est une divagation peut-être, beaucoup de femmes ont perdu leur ménage parce qu'on n'a pas acheté un nouveau wax après la naissance d'un enfant ou quoi que ce soit. De la même manière, un enfant qui n'a pas appris à se contenter de ce que ses parents sont capables, c'est un enfant qui est déphasé et qui sera malheureux dans la vie. Parce que on doit se le dire, les parents ne donneront pas toujours les mêmes moyens à tous les enfants, parce qu'on a été enseignants nous-mêmes et nous étions élèves aussi. Nous avons vu des élèves qui amenaient plus que ce que nous pouvions amener, et il y en a qui venaient beaucoup plus pauvrement que nous. C'est qu'il y a toujours une petite différence des classes où on doit appeler ça comme ça, parmi les élèves. Et un enfant qui ne peut pas accepter qu'on puisse, par exemple, comme le fait papa ici, il dit, bon, on va privilégier vos frères, et vous allez commencer avec les uniformes de l'année passée parce que ce n'est pas encore...
Ils étaient même mécontents, les enfants.
Ils ont raison qu'ils soient un peu mécontents parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont réussi, parce qu'ils ont les mêmes droits que les autres. Mais dans l'entretemps, dans un dialogue de famille, les compromis pouvaient être trouvés avant même qu'on engage l'achat des uniformes des uns et des autres. Peut-être ceux qui font l'internat pouvaient aussi amener des anciennes uniformes parce que pour eux, on va casquer plus pour le repas. Mais ils pouvaient accepter que l'on puisse dépenser aussi un peu d'argent pour leurs frères en ce qui concerne les uniformes. Donc c'est un problème de dialogue qui aide facilement à pallier à certaines incompréhensions dans la famille.
Alors, autre chose également, c'est la réaction de César Morola qui est appelé de Bukavu dans le sud Kivu et qui revient sur cette pratique qui est souvent décriée, mais qui revient presque à chaque rentrée où il y a des écoles qui exigent que tout soit acheté au niveau de l'établissement scolaire, c'est-à-dire que les uniformes, les objets classiques, et ça facilite pas toujours la tâche aux parents.
Oui, vous avez raison, il a raison, effectivement, et je pense que l'État a déjà réagi sur cette question. Proposer un modèle d'uniforme, oui, mais imposer qu'on achète des uniformes à l'école, c'est illégal. C'est illégal parce que, d'ailleurs, c'est une mauvaise habitude. Personne qui s'habille suivant le modèle imposé par son entreprise, si ce n'est pas une uniforme du service qui est distribué. On ne va pas dire, vous êtes journaliste à la radio Capi, vous devez avoir toujours tel type de costume, tel type de chaussures. Hein? Mais pourquoi est-ce que cela va commencer à l'école? On sait pourquoi est-ce qu'on avait décidé à un moment donné d'uniformiser la tenue scolaire. C'était au fond pour éviter certaines exagérations observées chez certains enfants de certaines familles. Mais alors, cela ne doit pas être une source de revenus pour les écoles comme on est en train de faire aujourd'hui. On fait un tour au marché de Kinshasa, par exemple, on va trouver une petite chemise d'enfant de l'école primaire à 3000 francs. Et vous arrivez dans certaines écoles avec le même tissu, le même modèle, on vous le vend à 10, 15 000 francs congolais ou plus. Même s'il s'agit d'auto-financement pour l'école, il faudra que l'on soit dans la même plage. Qu'on se dise, au marché c'est 3000, alors vendons à 2800 parce que nous voudrons que nos enfants aient la bonne tenue. Il s'agit maintenant de dénoncer ces écoles.
Ça, c'est important.
Les parents doivent s'organiser pour dénoncer.
Voilà, Paul, avant de passer à Alain, qui a appelé du Kananga, mm-hmm. et en tout cas ça sera aussi par sa question qu'on va conclure, qui a demandé comment il faut vraiment s'y prendre pour arriver à assurer une bonne rentrée scolaire lorsqu'on a beaucoup d'enfants. Parlons d'abord de ces réactions du docteur Richard qui a parlé de crédit scolaire. Pourquoi n'y pas faciliter aussi les parents avec des crédits scolaires? Il a même dit sous d'autres yeux, même des agriculteurs, des gens qui ont des plantations de patates, ils ont droit au crédit scolaire pour leur faciliter la tâche plutôt que de se casser la tête.
J'ai aimé la réaction du docteur Richard parce que c'était assez passionnant.
Oui.
Mais je voudrais l'apaiser en disant que nous sommes réalistes. Nous ne sommes pas idéalistes, nous sommes réalistes. Nous sommes en train d'aider des gens qui sont dans un système où l'accès au crédit n'est pas encore généralisé.
Oui.
Donc il faut, en même temps que nous sommes en train de penser au modèle d'ailleurs, nous puissions pallier au plus pressé. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire et dans une situation où on ne peut pas aller en banque aujourd'hui obtenir un crédit. Mais si un jour, dans l'évolution de la situation sociopolitique du pays, et on arrive à généraliser le système bancaire, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas y arriver. Mais en ce qui concerne notre ami Alain...
Oui, pour conclure.
Pour conclure,
comment y aller progressivement pour vraiment bien assurer la rentrée scolaire, surtout lorsqu'on a beaucoup d'enfants?
Ok. Pas seulement quand on a beaucoup d'enfants, mais quand on a perdu aussi son emploi.
Oui.
Hein? Quand on a perdu son emploi, à un moment donné, on était capable, avec ce que l'on gagnait, hein, de scolariser ses 2, 3, 5, 10 enfants. Puis à un moment donné, vous perdez l'emploi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut désarmer? Non, la règle, c'est de se dire quelles sont mes forces, quelles sont les opportunités et comment je peux utiliser ces opportunités pour répondre aux besoins de ma famille. Vous êtes dans un milieu où le milieu agricole. Vous dites, bon, mon salaire n'est pas suffisant, je croise les bras, j'ai ces enfants-là jusqu'à ce que l'État va me payer le salaire convenant. Vous êtes en train de faire passer le temps aux enfants. Alors que vous pouvez profiter de la terre qui est à vos côtés et cultiver. Évidemment, ça prendra du temps. Mais dès que vous avez déjà commencé, quelqu'un disait, si vous voulez réussir dans la vie, acceptez d'abord de vous salir les mains. C'est-à-dire, faites quelque chose, initiez. Regardez autour de vous ce que vous pouvez faire pour survivre. Et cet instinct est en chacun de nous. Personne ne va accepter de mourir de faim.
Et pour ceux qui ont de l'emploi, qui n'ont pas assez de moyens, déjà s'y prendre... Il ne faut pas attendre la dernière minute.
Il ne faut pas attendre la dernière minute. Nous savons que ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens dans notre système sont dans les systèmes des bruits. Et ils se débattent. Madame ajoute un peu plus pour survivre. Et ça peut aider à ce que l'on puisse, en attendant que vienne l'état des droits que nous attendons, que chacun puisse se battre avec le peu qu'il peut trouver.
Voilà.
Soyons concrets, soyons réalistes, ne rêvons pas, hein, vivons avec d'abord ce que nous avons et puis après on verra ce que nous pourrons obtenir en réclamant, hein, auprès des décideurs, ce que nous pouvons recevoir.
Voilà, merci Paul Mboula pour ces précieux conseils aux parents par rapport au préparatif de la rentrée scolaire lorsqu'on a beaucoup d'enfants, mais l'invité insistait, même lorsqu'on en a moins, hein, il faut toujours aussi prendre le temps. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes éducateur à la vie. On espère vous retrouver prochainement.
C'est moi qui vous remercie.